Bonjour et bienvenue dans Les Oreilles Loin du Front. Ouh là là, c'est un bonjour qui démarre sur le chapeau de roue. Ce soir, on est en compagnie de Juliette, on est en compagnie de Marion, on est en compagnie d'Alex à la technique. Et nous allons recevoir...
une autre Juliette, puisque une autre Juliette est possible. Et cette autre Juliette, d'ailleurs, sévissait sur cette même onde de fréquence Paris Pluriel 106.3 il y a quelques années, dans cette même émission Les Oreilles Loin du Front. Et puis elle a aussi été une petite main de l'arrière-cour de fréquence Paris Pluriel, puisqu'elle cherchait des subventions, ce qui est quand même excessivement utile pour une radio associative. Mais là, on va la recevoir pour parler son, pour parler du contrôle sonore et de la façon dont une certaine modernité a été inventée, une certaine modernité sonore, puisque tu vas nous raconter l'histoire d'un type que on ne connaissait pas jusque-là, en tout cas nous, personnellement.
Non, mais personne ne le connaissait à part Juliette, je crois.
Non, je confirme, personne ne le connaissait à part moi.
Voilà.
Puis certains se sont même demandé si je l'avais inventé.
Ah là là.
Je vais garder le suspense.
Un certain Harold de Burismeyer qui a donc sévi d'un point de vue sonore sur le théâtre, sur l'industrie et sur la guerre.
She's evil. is Radio Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea.
This is Radio Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea.
This is Radio Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea.
This is Radio Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea.
Et oui, vous n'êtes pas sur Radio Pyongyang, mais bien sur Fréquence Paris Pluriel, avec les oreilles loin du front. Et en cette semaine de journée mondiale de la radio, on vous diffusait un extrait de ce CD Radio Pyongyang, qui est publié par Sublime Frequencies, qui est une maison d'édition de CD qui ne fait que des CD sur des radios bizarroïdes. Et c'est assez intéressant.
Oui, mais ce n'était pas la seule raison pour avoir choisi cette pause musicale. C'est aussi parce qu'on reçoit en plateau ce soir Juliette Volclair pour son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore » qui est publié aux éditions La Découverte.
Et on avait déjà reçu Juliette Volclair à l'occasion de la sortie de son autre bouquin sur le son qui était donc sur le nom, c'est
le son comme arme.
Donc tu es quand même une spécialiste du son, peut-être que... Avant de parler de cet homme assez inconnu, dont tu parles dans ce dernier ouvrage, est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi tu t'intéresses au son, finalement ?
Mais parce que j'ai découvert FPP dans ma vie et tout à coup, la voix du son s'ouvrait à moi. Enfin, je rigole, mais en fait, c'est un peu ça, en réalité, hein, parce que mon intérêt pour le son, il a démarré dans les studios de cette radio, dans l'émission « Les oreilles loin du front ». Et après, en m'intéressant aux radios libres de manière plus générale, et puis en circulant un petit peu, en allant à la rencontre de diverses radios libres. Et puis à la même époque, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des armes acoustiques. Et je ne vais pas vous refaire la généalogie de celui-là, on n'a qu'à se référer à l'émission précédente qu'on
exactement,
avait faite.
Mais voilà.
Et puis après, de fil en aiguille, en fait, Harold Burismeyer, le gars sur qui je fais ce nouveau bouquin, c'est un personnage microscopique dans le précédent livre, je l'évoque en deux lignes, et il m'avait beaucoup intriguée, comme un autre personnage d'ailleurs sur lequel je ferai peut-être un livre un jour, va savoir. Qui était Vladimir Gavreau, l'ingénieur français qui avait inventé les usages répressifs des infrasons, parce qu'il n'y en a pas, mais qui avait en tout cas beaucoup, beaucoup expérimenté autour de ça, et qui est un personnage assez fantasque aussi. Et donc Burismeyer, je trouvais que ça valait le coup de plonger un peu plus loin dans la recherche autour de ce personnage assez étonnant.
Mais justement, comment tu l'as rencontré, ce personnage de Harold Burismeyer, avant que tu nous dises un peu qui il est, parce que bon.
En fait, il était intriguant parce que il avait à la fois participé à des recherches, on va dire, relativement conventionnelles.
C'était à quelle époque tout ça ?
C'était lui, il a vécu de 1902 à 1984, et il a été actif, on va dire, dans ses recherches sur le son essentiellement entre 1930 et 1960. En gros, c'est ça le cœur de son travail. Après, il a été actif dans la dernière partie de sa vie, mais de manière plus distante. Et donc, ce qui m'intriguait un peu chez ce bonhomme, c'est qu'il avait une approche du son visiblement assez libre, assez débarrassée de tout problème moral. C'est-à-dire qu'il voulait, par exemple, il avait travaillé sur une torpille acoustique qui devait s'autodétruire après avoir diffusé son petit message. Et voilà, il était décrit à chaque fois dans les documents le concernant comme quelqu'un de très exubérant, d'assez drôle. Donc il était intriguant, en fait.
Un petit côté savant fou. Hein.
Oui, à la fois au cœur de recherches très pointues et moralement très limites. Sur le son, et visiblement un personnage très sympathique avec qui prendre un verre.
Et il assumait parfaitement le fait de travailler sur de la manipulation, c'est ça ? Dans une autre émission, vous le qualifiez presque de naïf sur ce...
Oui, mais c'est ça qui est assez plaisant, en réalité, dans le fait de prendre un personnage comme ça, comme personnage principal du livre, c'est qu'il s'exprimait de manière très directe. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un personnage qui n'a pas eu une grande postérité, qu'il a été un petit peu passé dans les oubliettes de l'histoire par les diverses institutions pour lesquelles il a travaillé, parce qu'il dérangeait, en fait. Son discours était bien trop franc par rapport à la version policée qu'auraient voulu en donner les institutions qui le finançaient.
Mais alors ça explique qu'il ait disparu un peu des institutions, qu'elles ne le mettent pas en avant, mais c'est un personnage par ailleurs qui n'est pas très connu même. Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs ou chercheuses qui ont travaillé sur lui ?
Alors il est très connu dans le domaine du théâtre, parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages qui font partie en fait, des grands classiques du théâtre aux États-Unis. Il les a co-écrits avec différents auteurs. Et ce sont vraiment, ils sont considérés comme des livres. C'est pas sur le son au théâtre uniquement, c'est sur la scénographie de manière plus générale. Et il s'est spécialisé. Après, il était reconnu comme un spécialiste du son au théâtre. Et il a été très largement un pionnier dans l'introduction du son électronique au théâtre, c'est-à-dire au-delà des bruitages ou de la simple amplification de la voix parlée. Il était l'un des tout premiers à travailler les effets sonores au théâtre et à essayer de faire autre chose, faire en sorte que le son devienne un vrai personnage au théâtre, ce qui le rend a priori plutôt sympathique à mes oreilles en tout cas. Sauf qu'il en a tout de suite fait autre chose, et justement en disant très rapidement dans ses recherches qu'il a cherché dès les années, par exemple, il faisait des spectacles sonores pour mettre en valeur son travail, celui de son équipe. Et dans le premier spectacle sonore qu'il a fait, en 1934, il parlait déjà de déclencher une hystérie de masse dans le public au moyen d'un son, en quelques secondes. Et donc tout ça se mêlait, c'est très ambivalent en fait comme personnage, à la fois très reconnu pour avoir ouvert vraiment un champ entier de création sonore au sein du vieil art du théâtre, et je pense à ce titre-là qu'il a contribué à faire en sorte que le théâtre reste un art moderne, parce qu'il était à la même époque concurrencé par le cinéma. Ce qui n'était pas anodin, quoi. Il y avait quand même une concurrence entre les deux formes artistiques, on va dire. Et puis, en même temps, il était très influencé par le comportementalisme ambiant de son époque, de manière, je pense, relativement diffuse, parce que c'est jamais explicité très clairement dans son travail. Mais on retrouve, en fait, tous les poncifs, en gros, du comportementalisme, sur lesquels on reviendra peut-être un peu plus précisément après.
Et comment tu as travaillé ? Parce que là, on parle de son, mais est-ce qu'il y avait des archives sonores ? Est-ce que tu as été rencontrer la famille, s'il y en avait ? Est-ce qu'il y avait des écrits ?
Alors, la famille, non, je sais qu'enfin, j'aurais pu rentrer en contact. Il a un fils et une fille qui sont toujours vivants. Et j'ai volontairement pas exploité, en fait, cette possibilité, parce que maintenir un certain respect vis-à-vis de la famille, étant donné que Burris Meyer, je ne suis pas du tout d'accord avec sa façon de concevoir le son ou l'ordre social. Et il y a eu par exemple beaucoup d'enthousiasme de la part d'anciens collègues à lui quand je les ai contactés pour dire je voudrais faire un livre sur M. Burris Meyer, est-ce que vous accepteriez de répondre à mes questions ? Et ils étaient vraiment très très heureux, enfin il va sortir de l'oubli, la méconnaissance dans laquelle il était tombé, c'était vraiment très triste, très dommage. Moi j'étais dans une position un peu ambivalente en disant clairement que moi j'étais pas forcément d'accord avec lui, mais que c'est un personnage que je trouvais profondément intéressant et qui méritait de revenir un petit peu en lumière. Mais la famille, j'ai volontairement laissé de côté. Je sais qu'il y a des sources, notamment des documents d'archives, enfin des documents que lui a écrits qui sont disponibles auprès d'eux, mais j'ai pas, peut-être ultérieurement, mais pas pour l'instant en tout cas. Et ensuite, j'ai fait un gros travail de recherche d'archives. J'ai eu le soutien très précieux de Lee Winzel, qui est un professeur au sein de l'Institut technologique Stevens aux États-Unis, qui est l'institut technologique au sein duquel a travaillé Burris Meyer. C'est là où vraiment sa carrière s'est lancée.
Il était ingénieur en fait au départ ?
Non, il est autodidacte. Au départ, il a été ranger dans le désert.
Il a été
vendeur de voitures Ford à l'époque de la Ford T. Et après, il a décidé de prendre des cours de théâtre, de suivre des cours de théâtre. Et il est rentré en fait à l'Institut Stevens comme professeur de théâtre. Et ensuite, il a développé le département théâtre et d'un point de vue technique, technologique. Et c'est lui qui a vraiment apporté cette dimension technologique au sein du département. Et donc, j'ai eu accès à des archives très précieuses au sein de l'Institut Stevens qui ont été numérisées pour l'occasion. Et ensuite, c'était vraiment un travail un peu de fourmi, quoi, d'aller chercher pour les périodes ultérieures de sa vie, quand il a travaillé pour l'industrie, pour les fabricants de musique d'ambiance notamment, ou quand il a travaillé pour l'armée. C'était
pour la
un
CIA.
Mélange, voilà, et pour la CIA, un mélange de travail d'archives et travail d'entretien. Et d'autres sources, de sources un peu mixtes. Moi, j'ai utilisé aussi une source, par exemple un forum de généalogie, où un pan de la famille Burris Meyer, de l'histoire de la famille Burris Meyer était évoqué. J'ai mêlé plein de sources différentes en fait, volontairement, pour comprendre quel était ce personnage et pour lui donner corps, en les recoupant à chaque fois naturellement, quoi, pas juste en saisissant une rumeur quelque part et en la mettant dans le livre, mais en recoupant, mais en partir d'une multitude de sources différentes, quoi.
Et oui, ce soir, on reçoit Juliette Volclair à l'occasion de la sortie de son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore ». Et justement, on va écouter un son qui date de son époque théâtrale, utilisation du son par Disney. Peut-être reconnu, c'est la musique de Fantasia, puisque ce soir on parle de son et de...
Et de manipulation sonore, puisqu'on reçoit Juliette Volclair pour son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore » aux éditions La Découverte. Et en fait, c'est un livre qui retrace en fait la vie de Harold Burris Meyer, qui est du coup l'un des inventeurs de cet art de la manipulation sonore. Et tu expliques dans le livre qu'il il a fait toute une partie de sa carrière autour du théâtre. Il a travaillé sur le son au théâtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement ?
Il a beaucoup travaillé sur les effets sonores, sur l'utilisation, par exemple, des modifications de la voix humaine. C'était l'époque. C'est une période vraiment d'ébullition, cette période des années 1930. Parce qu'il y a non seulement l'Institut technologique Stevens qui travaille là-dessus, mais il y a également Walt Disney qui est en train qui est à l'époque un petit studio qui ne gagne pas beaucoup d'argent et qui essaye justement d'atteindre un autre niveau en misant sur le son. Et Fantasia sera vraiment l'exemple même de ça. Enfin, c'est ça qui va propulser vraiment aussi le studio dans une grande lumière, même si ce sera un échec commercial, quoi. Et il y a les laboratoires Bell, qui sont aussi des laboratoires, c'est une usine à brevets électroniques et notamment sonores. Et les laboratoires Bell, par exemple, à l'époque, mettent au point le vocodeur, ou le vaudeur, qui est un outil de transformation de la voix. On entend toujours aujourd'hui, quand on entend des voix un peu métallisées, robotisées, qui sont utilisées dans certains morceaux de hip-hop ou autres, ce sont les descendants du vocodeur qui permettent de réaliser ça. Et Burris Meyer, par exemple, a utilisé le vocodeur dans certaines représentations pour la première fois. Parce qu'il y avait des partenariats. En fait, c'était à l'époque assez courant pour un institut technologique de faire des partenariats avec des sociétés privées et d'utiliser leurs prototypes à l'intérieur de l'enseignement à des fins expérimentales ou bien dans des représentations. Et donc, Burris Meyer a fait ça avec des disques de Music Corporation, avec des voix synthétiques de Ben Labs et ce genre de choses. Et après, il a énormément travaillé non seulement sur les effets. En fait, il travaillait toute la chaîne du son. C'est ça qui est assez incroyable, qui aujourd'hui ne serait, à mon avis, plus possible, puisque les métiers sont beaucoup plus spécialisés. Il a travaillé sur aussi la conception même de la console de diffusion des sons. Créer une console qui puisse avoir plusieurs entrées, c'est-à-dire plusieurs sources sonores qui arrivent dans cette console, et plusieurs sorties, c'est-à-dire au lieu de diffuser en fait le son qui vient d'un seul micro pour le diffuser à travers un seul haut-parleur, eh bien avec Burris Meyer et l'ambiance qu'il y avait à l'époque et toutes les recherches conjointes qui se menaient à son époque, on peut diffuser du son qui vient de trois micros, un enregistreur, etc., etc., et qui sont diffusés dans plein de haut-parleurs différents et qu'on peut choisir. Et par exemple, Burris Meyer, il avait fait sur une représentation de Hamlet, il avait pensé vers le fantôme. C'était une lumière qui se déplaçait sur la scène. Et lui, il avait imaginé de faire en sorte que le son du spectre semble se déplacer aussi sur la scène, c'est-à-dire qu'il y avait un ingénieur du son en régie qui faisait déplacer la voix sur les différents haut-parleurs sur scène pour faire croire qu'en fait la voix venait de là. Et il a beaucoup travaillé justement sur le son localisé, faire croire aussi par exemple qu'il y avait un avion qui tournait au-dessus du public. Et ça, en fait, c'est la coordination des enceintes qui sont placées au plafond qui permettait de faire ça avec un travail aussi sur l'effet Doppler. Et du coup, c'est aussi un gros travail, non seulement technique, mais de ce qui sera nommé plus tard la psychoacoustique, c'est-à-dire comprendre comment l'oreille perçoit les sons et comment on réagit aux sons. Par exemple, il disait, l'oreille ne perçoit pas, quand les spectateurs sont, les spectatrices sont assis dans le public, ils ne peuvent pas percevoir si le son vient d'en haut ou d'en bas, par exemple. Donc si on veut faire croire que le son vient de devant eux, il suffit de mettre un haut-parleur en haut. On met un jukebox, par exemple, en dessous du haut-parleur. Si on diffuse le son de ce haut-parleur-là, il semblera sortir du jukebox. Ce genre de choses, quoi. Et il faisait beaucoup d'études sur la manière dont on allait percevoir le son.
Tu as mentionné l'effet Doppler. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est pour les non-initiés?
L'effet Doppler, la perception qu'a l'oreille humaine du son d'un véhicule en mouvement. Et par exemple, vous pouvez percevoir rien qu'à l'oreille. C'est d'ailleurs beaucoup grâce à ça qu'on se dirige en ville. Si un véhicule est en approche ou bien s'il est parti. Il y a un son aigu, puis grave. Et du coup, la connaissance de l'effet Doppler, ça a été l'objet d'un énorme travail dans ces années 30, parce que c'est ça, en fait, qui allait constituer une bonne partie du réalisme sonore d'un certain nombre de pièces, non seulement dans les années 30 au théâtre, mais aussi, on le verra plus tard, pour des leurres militaires, en fait, des leurres développées par l'armée.
Et donc là, si je comprends bien, dans les années 30, en fait, il y a tout aux États-Unis et sans doute ailleurs, il y a toute une réflexion sur le son, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut mieux l'utiliser, se l'approprier, etc. Mais Burris Meyer, comment lui, il en est venu à s'intéresser à ça, à cette question-là précisément, en fait ?
C'est un peu par hasard, en fait. Quand il venait d'être embauché comme professeur de théâtre à l'Institut Stevens. Et en fait, c'était le 50e anniversaire d'une très grosse société, l'ASME. Il voulait fêter ça dignement avec une grande représentation théâtrale qui serait une sorte de fresque de toutes les inventions humaines, une pièce en fait à la gloire du progrès technique, quoi. Pour mettre en évidence ce progrès technique, il fallait que la pièce soit portée par plein d'innovations techniques elles-mêmes. Et Burris Meyer, alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais je pense qu'il avait déjà commencé à s'intéresser à la question, il a été chargé de l'aspect sonore de cette pièce. Et la pièce d'ailleurs s'appelait Control, d'où le titre de mon livre.
Ce n'est pas innocent, ce titre.
Et c'était vraiment ça qu'en 1930 qu'a lancé sa carrière. Et après, cette notion de contrôle est revenue plusieurs fois chez Burris Meyer. Dans les années 50, il a fondé une société dont il était le président et peut-être l'unique employé d'ailleurs, et qui s'intitulait Control Incorporated, ce que je trouve très beau comme titre. Et après, au sein de l'Institut Stevens, la console de diffusion qui permettait justement de diffuser à partir de plein de sources différentes et vers plein de haut-parleurs différents, il l'avait appelé le Stevens Sound Control System. Donc vraiment, cette notion de contrôle était au cœur, lui, de sa réflexion. Et le contrôle du son, mais en fait, plus certainement, le contrôle du public.
Et les émotions du public.
Voilà, c'était ça l'objet véritable de sa recherche. Et il le cachait pas, hein, il le dit explicitement, que son objectif, c'est de manipuler les émotions du public et de les analyser. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a découvert ça? C'est parce que lors de la représentation de Control, il y avait un certain nombre d'effets qui étaient... Qui était attendu, enfin qui était voilà plus ou moins espéré, voilà. Et il y en a d'autres qui ont été constatés lors de la représentation. Et notamment à un moment donné, la pièce apparemment est dans un moment un peu d'exubérance, à la fois au niveau visuel et sonore. Le tempo s'accélère et tout. Et ils ont constaté lors de plusieurs représentations que le public se penchait en avant sur les sièges. Et ça l'a absolument fasciné. Et du coup, il en a déduit que le son en fait pouvait vraiment manipuler les corps, enfin les esprits et donc les corps à volonté. Et donc, il a voulu trouver les mécanismes de manipulation qui étaient à l'œuvre dans ce genre de constatation, enfin d'expérience, quoi.
Il y a la création du son qui donne la chair de poule, mais ça, on peut peut-être... Quand un professeur écrit à la craie, on le sent parfois quand ça crisse. Donc il est quand même... c'est quelque chose qu'il savait, qui se ressentait.
Oui, mais ça, en fait, paradoxalement, c'est beaucoup plus tard qu'il y aura des recherches là-dessus. Enfin, il y a un programme aux États-Unis de recherche sur le son répulsif, mais c'est dans les années 70, pas avant. Et à l'époque de Burris Meyer, c'est pas un hasard en fait si c'est arrivé dans le théâtre et si le théâtre lui a donné, je pense, une aussi grande liberté d'action et de recherche, parce que le fait que ce soit un art, ça permettait en gros de s'affranchir de toute morale, quoi. Il y avait un objectif artistique supérieur. On était dans le faux, on était dans la représentation, on était dans une recherche esthétique. Quoique l'aspect esthétique des travaux sonores de Burris Meyer ait laissé sceptique un certain nombre de ses contemporains, mais en tout cas elle était affirmée comme esthétique, et du coup ça, en fait je pense que ça le laissait, lui se sentait du coup entièrement légitime et libre de mener absolument toutes les recherches qu'il voulait. Je pense que s'il était arrivé directement au sein de l'armée ou au sein de sociétés privées en disant « Bonjour, je voudrais manipuler les gens au moyen du son, donnez-moi 30 000 dollars pour développer une console de diffusion », on lui aurait rayonné et puis on l'aurait trouvé un petit peu bizarre. Mais tel que ça a évolué, tel que sa recherche a évolué, ça a été parfaitement accepté. Et ensuite, du coup, ça a eu une postérité dans d'autres domaines que le théâtre.
Et il a inventé, alors je vais essayer de le dire d'une façon assez propre et directe, c'est le psychogalvanomètre, c'est
oui,
ça?
Oui.
Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce qu'il y avait un côté un peu scientifique et tayloriste dans tout ce qu'il
oui,
faisait.
Mais oui, oui, il revendiquait d'ailleurs cette référence au taylorisme, puisque pour lui, l'objectif, c'était une vision vraiment profondément capitaliste hein, du monde, y compris du théâtre.
Et ça correspond aussi à cette époque-là aux États-Unis,
tout à fait,
d'un point de vue économique.
Tout à fait. Et lui, par exemple, quand il écrit sur le théâtre, il dit, même s'il revendique hein, de travailler d'un point de vue esthétique, il dit l'objectif du théâtre, c'est de faire rentrer des sous dans la caisse. Voilà. Et il dit à un moment donné à une assemblée de doctes directeurs de théâtre, penchez-vous sur les principes édictés par Taylor. Ils fonctionnent très bien au théâtre. Ça ne marche pas seulement dans les usines, ça marche au théâtre. Et donc, lui a voulu industrialiser les émotions. Enfin, le théâtre a été justement ce laboratoire d'industrialisation des émotions. Et j'ai oublié juste la première partie de ta question qui n'était pas
c'était
là-dessus.
Le psychogalvanomètre.
Alors... C'était justement sur cet aspect de contrôle. Il voulait contrôler la chaîne du son de bout en bout, et donc jusqu'à l'intérieur du cerveau des spectatrices et spectateurs. Et donc, c'est un peu le projet secret qu'il a nourri tout au long de sa vie, et c'était assez amusant à constater, il l'a injecté dans tous les différents domaines où il a travaillé. On retrouve ce projet-là, mais qui n'est jamais abouti. C'est masqué derrière un plus gros projet, plus officiel, mais il y a toujours un moment, il nous faut un outil de mesure de l'émotion, de mesure de l'impact du son. Et je pense que si c'était dérangeant, c'est précisément parce que c'est assez intrusif comme conception. Et le psychogalvanomètre, c'était un outil qui était censé brancher quelque chose sur la tête ou le corps des spectatrices et spectateurs afin de mesurer leur réaction à une diffusion sonore. Mesurer, donc, ultérieurement, il a développé des prototypes qui se manifestaient par la mesure du pouls, de la respiration, changement de la respiration, changement de la position sur le fauteuil. Donc ça, c'était la première révélation qu'il avait eue en 1930 avec la pièce Control. Et changement de la couleur de la peau. Tout ça, en fait, il l'a mené plus... Enfin, les seuls outils... on va dire, vraiment réussi, enfin qu'il a réellement utilisé, c'est plus à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, le public cobaye, on va dire, enfin les cobayes de sa principale expérience, c'était des jeunes enfants noirs
dans les écoles,
de milieux pauvres, et lui était persuadé, enfin c'est vraiment aussi, enfin c'est vraiment une histoire du capitalisme et de l'empire en fait états-unien, parce que il avait un discours aussi sur le fait que ces jeunes noirs, eh bien, il fallait les, c'était un excellent public pour ça, parce que justement c'est SDE qui avait le plus besoin de son enseignement. Et bon, c'est comme ça que à cette époque-là, le psychogalvanomètre s'était modifié en quelque chose de moins immédiatement intrusif, c'est-à-dire il n'y avait plus d'appareillage, mais il avait trouvé le moyen de mesurer à distance. C'est devenu l'encabulator, c'est pas un nom beaucoup plus sympathique, et l'encabulator mesurait à distance justement l'évolution du pouls des enfants, de plein de paramètres en fait physiologiques des enfants dans une classe, pour voir à quel point ils ou elles étaient réceptifs à l'enseignement proposé, qui était un enseignement censément un petit peu alternatif, ouvert. Ils écrivaient des chansons, ils faisaient tout un tas de choses. Voilà. Et après, les outils de mesure de l'impact, c'était non seulement les données de l'encabulator, mais c'était aussi plein de statistiques. Par exemple, les enfants qui ont suivi cet enseignement, ils arrivent à écrire des phrases 12% plus longues que les enfants qui ont suivi un enseignement traditionnel. Et c'était très, très axé sur le langage, 42% de vocabulaire en plus, 12% d'erreurs en moins par rapport aux autres. Enfin voilà. Mais bon, ce truc-là, c'est à la fois risible et très symptôme. En fait, aujourd'hui aussi, on est en plein dedans toujours, mais ça ne se formule absolument plus de la même manière.
Quand on parle d'art-thérapie ou de choses comme ça, il peut y avoir cette utilisation du son, de l'art.
Oui, Après, pour des objectifs très distincts et de manière aussi plus subtile, par exemple, que celle que pouvait mettre en œuvre Burris Meyer. Mais le côté de mesure du corps humain à des fins, qu'elles soient médicales, censément humanitaires, comme lui percevait son grand projet avec l'encabulator, ou industriel, enfin professionnel, etc. Oui, ça s'est mis en place, notamment à travers le travail que lui, il a fait.
Et c'est aussi le père de la psychoacoustique, c'est ça ?
C'est pas lui le père de la psychoacoustique. Disons qu'il baignait dans une époque où la psychoacoustique, au sein de laquelle la psychoacoustique est née. Après, celui qui l'a créée, c'est pas lui, c'est Stanley Smith Stevens, au sein de l'université d'Harvard. Le premier laboratoire de psychoacoustique a été créé en 1940, et c'était une commande de l'armée des États-Unis. Qui voulait initialement savoir, réussir à appréhender de manière un peu plus fine l'impact des sons très forts dans l'aviation sur les soldats. Et après, bon, ça c'est beaucoup d'autres choses se sont développées à partir de ça, quoi. C'était aussi la communication très axée sur la communication verbale, par exemple. Si on veut communiquer à travers des haut-parleurs sur un bateau de guerre avec un bruit de fond, c'est-à-dire un bruit ambiant extrêmement fort, les vagues, éventuellement des explosions, le bruit normal qu'il y a sur un énorme bateau, comment est-ce qu'on doit véhiculer le message, à travers quelle disposition de haut-parleurs, placé dans quelle direction et avec quelle tonalité de la voix. Et ça a été par exemple déterminé à cette occasion que il fallait mieux s'adresser avec une voix aiguë. C'est pour ça qu'il y a un écrémage. C'est comme au téléphone, on n'entend pas notre voix naturelle, enfin, en tout cas dans les téléphones à l'ancienne, parce qu'il y a un écrémage des fréquences.
Un dététage.
Voilà. Pour le son sur les bateaux, pareil, en fait, toutes les graves étaient complètement écrémées de la diffusion et on gardait que l'aigu, ce qui permettait de ne pas avoir à diffuser à fond.
Et ce travail sonore donc, de cet ingénieur Harold Burris Meyer a été utilisé aussi dans le cinéma, puisque tout à l'heure, on parlait de Disney. Donc Disney a repris ces techniques pour les utiliser pour...
Il y a des chercheurs qui formulent cette hypothèse que Burris Meyer a indirectement travaillé en fait, sur le Fantasia de Disney. C'est-à-dire, le Fantasia, c'est le développement de la stéréophonie par Disney aussi. Hein. C'est vraiment les premières grandes expériences en stéréophonie, c'est-à-dire écouter justement du son qui est diffusé par deux haut-parleurs différents, qui donne vraiment une sensation d'espace par rapport à une diffusion via un seul haut-parleur qui est très aplati. Moi, j'ai pas retrouvé ça dans mes recherches. Burris Meyer a fait. Après, c'est encore une fois une période où tout se mêle. Il y a une sorte de grand enthousiasme autour du son et autour de bien d'autres techniques. Donc, je pense que les travaux des uns et des autres s'influencent mutuellement. Mais il n'a pas contribué directement au travail chez Disney.
Et en radio, ça a été utilisé à cette époque-là, ces techniques Parce que c'est une période où il y avait beaucoup de fiction sonore.
Oui,
en radio.
En fait, en radio, Burris Meyer a fait un tout petit peu de radio, mais à ma connaissance, pas dans l'ordre de la création sonore. Mais par contre, à cette époque, la radio travaille un peu les effets sonores. Par exemple, 1938, c'est la date de la grande fiction du Mercury Theater on the Air, menée par Orson Welles, La Guerre des Mondes.
Qui a fait peur quand même à toute l'Amérique. Enfin, c'est la légende.
C'est la légende qui est à prendre un peu avec des pincettes, qui a fait peur à un certain nombre de personnes, qui a amusé beaucoup d'autres personnes aussi, mais en tout cas qui a vraiment suscité une grande émotion aux États-Unis et qui a été à l'origine d'une nouvelle réglementation du CSA états-unien, c'est-à-dire la FCC, qui du coup a interdit des diffusions canulars, on va dire. Alors que ce n'était pas du tout un canular, le truc du Mercury Theater, c'était annoncé comme tel.
Mais c'est une fiction sonore.
C'était une fiction qui était annoncée comme une fiction. Elle était située un an plus tard, elle était annoncée comme une fiction. Et puis le scénario de La Guerre des Mondes de H.G. Wells était vraiment très très connu à l'époque. Donc il n'y avait pas tellement de doutes sur l'intention. L'intention n'était pas de faire peur, quoi. C'était vraiment de mettre en onde de manière réaliste une invasion. Et d'ailleurs, voilà, j'en profite aussi pour... C'était une femme, Aura Nichols, qui était une des pionnières des effets sonores à la radio à l'époque, qui a, elle, beaucoup travaillé sur c'était elle, la metteuse en onde de La Guerre des Mondes, notamment, et de plein d'autres fictions de l'époque. Et donc, c'était une femme qui a beaucoup, beaucoup été à l'origine des recherches sur les effets sonores radiophoniques à l'époque.
Et oui, ce soir, sur les ondes de fréquence Paris Pluriel, on reçoit Juliette Volclair à l'occasion de la sortie de son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore » et c'est publié aux éditions La Découverte. C'était Joshua Fought the Battle of Jericho et c'était The Weavers parce qu'on parle de son ce soir puisque Joshua c'est quand même dans la Bible ou quand même grâce à des superbes un son, c'est quel infrason qui...
Les trompettes de Jericho, non, ce nom, c'est des trompettes, c'est des sons médiums je pense.
Ok, des sons médiums qui ont cassé le mur de Jericho.
Voilà, puisqu'on est en plateau avec Juliette Volclair pour son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore » publié aux éditions La Découverte.
Alors depuis tout à l'heure, on parlait de Harold Burismeyer, cet ingénieur pas fou, mais en tout cas ultra créatif et assez étonnant.
Et fantasque.
Et fantasque. Donc on parlait de son travail justement dans l'activité artistique et théâtrale. Mais alors là, il se trouve qu'il n'a pas fait que ça, puisqu'après il a travaillé dans l'industrie aussi. Et c'est quand même le père de la musique d'ascenseur.
Il a été, c'est pas lui qui l'a inventé, ça a été inventé par un général en revanche, donc le lien.
On apprend des choses quand même assez étonnantes.
Voilà, le lien avec les militaires est clairement établi. C'était un général en fait qui dirigeait le corps des communications de l'armée états-unienne et qui était chargé de recherche parce que c'était, il y avait des corps de chercheurs, en fait, enfin des soldats qui n'étaient pas ou des officiers. Qui n'était pas, dont le rôle n'était pas de combattre, mais de mener des recherches pour l'armée. Et donc, le général George Owen Squire s'est beaucoup intéressé aux questions de transmission. Et par exemple, à un moment donné, il a créé le fluorographe, qui était l'utilisation d'arbres comme antenne radio.
C'est hyper pratique.
Oui.
Et ça peut arriver d'ailleurs dans les radios pirates sur des G8 ou des choses comme ça. Moi, je me souviens avoir utilisé
des fluorographes.
Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
C'était un hommage à l'armée états-unienne.
Mince.
Et lui-même avait dû piocher l'idée ailleurs aussi. Hein. Mais Squire, en fait, s'est beaucoup intéressé à tout ça. Et puis en 1922, il a créé une société qui s'appelait Wired Radio à l'époque et dont l'objectif était de proposer quelque chose d'extrêmement nouveau, de la musique à domicile. Sur simple pression d'un bouton, on pouvait avoir de la musique à domicile ou bien dans des hôtels, des restaurants, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc il y avait un abonnement à souscrire, il y avait un récepteur à avoir et on pouvait recevoir de la musique. Mais à la même époque, dans les années 1920, la radio, grande concurrente, s'est développée. Et donc le service que proposait Squire s'est vite avéré très largement concurrencé par la radio. Du coup, il a recentré sa société sur les diffusions auprès des professionnels, des magasins, des
c'est très large, hein, parce que ça peut être...
Voilà. Ah oui, oui, c'était très large. Et en 1934, il l'a renommé, donc il a enlevé la référence à la radio, il l'a renommé Muzak Corporation, parce que c'était un grand admirateur de Kodak. Et Muzak, c'était la contraction
pour la photographie.
Voilà, Kodak pour la photo, qui était très très connue à l'époque, et dont le slogan c'était « Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste ». Et donc, en fait, Squier a voulu faire ça pour la radio, quoi. Vous appuyez sur le... Enfin, pas pour la radio, pour la musique. Vous appuyez sur le bouton, vous recevez la musique que vous voulez. Et avec l'idée, voilà, à partir de 1934 aussi, de personnaliser les programmes en fonction des clients. Donc sa société commence à travailler sur cette idée de personnalisation des programmes. Ils commencent ils amassent une grosse base de morceaux musicaux qui décident de catégoriser en fonction de différents stimuli. Par exemple, si on veut, il y a des morceaux qui sont enthousiasmants, des morceaux qui rendent un petit peu plus sombres. Voilà. Donc ils commencent une première catégorisation assez grossière des morceaux. Et en 1939-40, ils font appel à Burris Meyer et à son collègue Richmond Cardinal, qui était aussi à l'Institut Stevens, pour pousser la rationalisation au-delà, pour en fait fournir un cadre conceptuel beaucoup plus clair à cette personnalisation de la musique d'ambiance. Et donc Burris Meyer et Cardinal vont enquêter dans des usines. Enfin, enquêter le terme et apprendre aussi un peu avec des pincettes, parce que ces méthodes de recherche ont pu être mises en question ultérieurement, et ils ont accès à quelques usines. Ils en ressortent avec des statistiques comme quoi la diffusion de musique dans les usines permet de faire augmenter la productivité ouvrière de 11,3%, de réduire l'absentéisme du lundi matin de 30%, de réduire les départs précoces en fin de journée de 30%. Et voilà, c'est vraiment du pain béni pour le patronat qui n'attendait que ça. Et d'autant qu'à la même époque, en Grande-Bretagne, il y a des recherches similaires qui ont lieu, notamment quelques années auparavant, 1937, une recherche qui marquera beaucoup sur la diffusion de musique dans une usine de feux d'artifice auprès d'ouvrières, pour réduire les malfaçons notamment. Et donc il y a toute une ébullition en fait autour de cette notion d'utiliser la musique dans les usines, surtout qu'on est dans un contexte de guerre et qu'il faut encourager la production de guerre. Et l'armée se met à diffuser de la musique dans ses arsenaux. En Grande-Bretagne, pareil, la BBC lance un programme spécifique qui s'appelle Music While You Work, donc la musique en travaillant, qui vise à encourager la production des ouvrières essentiellement, et des ouvriers, quand ils ne sont pas au front. Burris Meyer, en fait, du coup, n'est pas à l'initiative de tout ça, parce que c'est vraiment un contexte beaucoup plus large, où il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, mais il est une cheville ouvrière de la rationalisation. Et cette notion d'accompagner, en fait, la diffusion musicale par un discours scientifique, ou pseudo-scientifique, aux apparences... extrêmement savante, avec des diagrammes qui montrent la courbe de fatigue de l'employé qui...
Corée du Nord, là.
Qui fait, ouais, la courbe de fatigue de l'employé qui fait une sorte de cloche dans la journée, et puis la courbe de progression de la musique qui fait une cloche inverse pour forcément arriver à l'équilibre parfait. Bon, voilà. Muzak commence à fournir ce genre de documents, et en fait, la société va vraiment bâtir son empire, parce que ça va vraiment être une société extrêmement prospère.
Qui a fait beaucoup de bénéfices.
Oui, et qui a eu pas un monopole, mais vraiment une position dominante sur le marché de la diffusion de musique d'ambiance pendant vraiment très très longtemps. La Muzak était diffusée à la Maison Blanche dans les années 1950, sous la présidence d'Eisenhower. Elle était diffusée lors de la mission Apollo 13, qui n'a pas réussi, mais bon, on va peut-être pas l'imputer à Muzak non plus.
Vraiment dans les grands magasins.
Et Muzak, je crois, c'était dans les années 70, il me semble, Muzak était la plus grande utilisatrice au monde de lignes de téléphone, parce que c'était diffusé via des lignes de téléphone. Donc c'est pour donner en fait la mesure de l'empire qu'elle avait constitué. Et donc Burris Meyer était avec Cardinel, en fait, a permis de mettre en place ce fonctionnement double de fournir un service, assez basique, assez de diffusion de musique d'ambiance adaptée à certains publics ou adaptée à certains lieux, mais de l'adosser sur un discours scientifique. Et Musac n'a pas cessé, en fait, tout au long de son existence, de continuer à fournir de nouvelles recherches scientifiques et essayer à chaque fois d'affiner de plus en plus, ce qui pour moi relève davantage du marketing que de la science, parce que ces recherches ont pu être remises en question par d'autres personnes ultérieurement, et parce que tout simplement ça me semble assez difficile de prétendre à l'indépendance scientifique quand on est soi-même le principal bénéficiaire de la diffusion de la musique d'ambiance. Mais donc voilà, ils ont inventé en fait une forme de marketing scientifique.
Mais concrètement, du coup, ces Musac vendaient, par exemple, aux usines un appareil qui permettait de diffuser différents types de musique.
Il y a eu plusieurs fonctionnements au fil des années. Soit c'était une chaîne de radio, mais dédiée, privée, on va dire, pour tel ou tel.
C'était le radio monop de
l'usine.
Oui,
voilà, exactement. Les radios d'entreprise qui existent aujourd'hui, c'est un peu sur le même principe, en fait, avec des playlists personnalisées qui sont censées véhiculer l'image de la marque et aussi induire un certain comportement dans les rayons. D'aller vite, de rester longtemps, d'aller lentement, enfin voilà, ça dépend des desiderata, et puis de véhiculer aussi de signaler en fait à qui la marque souhaite s'adresser. Selon ce que vous allez entendre dans un magasin, vous saurez si la marque veut s'adresser à un public jeune, à un public plus âgé, à un public aisé ou à un public plus populaire. Voilà, elle véhicule beaucoup de choses à travers la musique. Voilà.
Et donc, c'est Musac aussi qui vendait aux compagnies de maintien d'ascenseurs des dispositifs, c'est ça, pour
l'ascenseur,
pour la musique d'ascenseur.
Ouais, ça a été symptomatique. Pour finir de répondre à ta question précédente, après, Musac aussi a fait des disques. Il y avait plusieurs supports, en fait, pour diffuser les sons. Ça a évolué au fil des années. Et puis, je pense qu'il y avait différents types d'abonnements, quoi, de la part des trucs. Après, l'ascenseur, c'était un peu symptomatique. C'était au tout début, c'était dans les années 30, quand il y avait les premiers ascenseurs. Les gens, effectivement, avaient peur de prendre l'ascenseur parce que c'était très nouveau. Et du coup, pour apaiser les pionniers de ces prises d'ascenseur, il y avait une diffusion de musique qui était censée être apaisante à l'intérieur. Et donc, ça a été associé durablement à ça, mais la société a essayé de s'en détacher très rapidement sans réussir.
Et oui, dans ce soir, on ne passe pas que de la musique d'ascenseur, on vous le promet. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on reçoit Juliette Volclair à l'occasion de la sortie de son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore » et c'est publié aux éditions La Découverte.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ça ne sera rien, rien que des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme ça ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit. Et rien de plus, de juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la Sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid.
Mais non, Brigitte, restez sur FPP. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et c'était Brigitte Fontaine qui chantait comme à la radio.
Et ce soir, on a en plateau avec nous Juliette Volclair qui a publié aux éditions La Découverte. Enfin, c'est une coédition La Découverte et La Rue Musicale qui est une collection de la Cité de la Musique. Un livre qui s'intitule Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore.
Et à l'instant, Juliette, tu nous faisais part de l'aspect marketing des recherches, c'est un espèce de marketing scientifique, bon, plus ou moins douteux, mais il n'empêche. Mais quand est-ce qu'on passe du marketing à la manipulation? Est-ce qu'on considère que le marketing, c'est de la manipulation de toute façon, ou il y a vraiment une étape qui est franchie à un moment et qui nous amène à l'objet de ton livre, la manipulation sonore réellement?
Bah, je parle, en fait, le sous-titre de mon livre est assez ironique parce que l'art de la manipulation sonore, pour moi, il est largement incantatoire en réalité. Il y a des tentatives, il y a de multiples tentatives de manipuler au moyen du son. Après, elles n'aboutissent pas nécessairement. Dans certains cas, elles peuvent aboutir, c'est-à-dire le son influe de fait sur nos émotions. Après, là où pour moi le discours est abusif, le discours de Burris Meyer, de Musa Corporation et des autres est abusif, c'est que ce n'est pas aussi rationnel que ce qu'il présente. Et notamment, par exemple, Burris Meyer s'est intéressé beaucoup à la musicothérapie à une époque. Et pareil, en ayant une approche, en voulant aussi beaucoup classer les choses, en voulant rationaliser, en voulant comprendre comment ça fonctionnait. Mais la musique est employée comme moyen d'apaiser des douleurs ou de soigner l'âme depuis des siècles, mais de manière subtile, nuancée, et qui s'accorde assez mal avec des mises en statistiques un petit peu brutales, telles que celles qui mènent. Le discours marketing autour de la manipulation sonore, il est lui-même opérant parce qu'il va faire croire en fait à une efficacité de la manipulation et donc il va jouer un rôle aussi dans cette manipulation. Alors que pour moi, il la surévalue très largement. Et par exemple, dans le domaine de la musique d'ambiance dont on parlait juste avant, le rôle du marketing scientifique, c'est de segmenter le marché. Et donc, de permettre à Musac de porter tel discours scientifique, de permettre à une société concurrente de porter un autre discours scientifique, et de cette manière-là, de se partager le marché en fonction des différents acteurs, et donc de faire croire, je pense, à une énorme diversité des propositions possibles, alors que, in fine, il s'agit essentiellement de faire des playlists, Il y a des manières très subtiles de faire des playlists, hein, enfin, l'art du mixage, de l'ambiance musicale, c'est un art réel. Après, dans un objectif commercial, voilà, il n'y a pas forcément 50 000 manières de le faire. Ça me semble un petit peu spécieux de présenter des statistiques aussi catégoriques sur la question.
Il y a un domaine en tout cas dans lequel il n'y a pas de débat et que l'objectif de la manipulation est assez clair, c'est le domaine militaire. Il a été repéré en fait, je crois, par l'armée qui a du coup exploité l'ensemble de ses travaux à vocation pour le coup 100% manipulatoire.
C'est dans les années, c'est en 1940 très exactement, où c'est non seulement l'équipe de Burris Meyer à l'Institut Stevens, mais l'équipe de Disney qui avait travaillé sur le Fantasound, l'équipe de Bell Labs qui travaillait sur de multiples choses parce que voilà, c'était vraiment une usine d'ingénieurs gigantesque. Et les équipements et le personnel sont réquisitionnés par l'armée états-unienne à l'époque, qui est dans la recherche de nouvelles armes. Ils veulent créer des nouvelles armes et notamment des armes acoustiques. Et les idées sont assez floues au départ. En fait, on offre un budget, Burris Meyer dit illimité. C'est vraiment un bonheur en fait, pour la recherche acoustique à l'époque, parce que l'armée offre des fonds très généreusement pour faire des recherches de façon libre sur, de façon très générale, les effets du son sur l'homme en temps de guerre. Comment on peut utiliser le son à des fins militaires sur des théâtres d'opérations militaires. Beaucoup de recherches vont être menées, notamment la torpille acoustique dont j'ai parlé au début, qui a existé, mais qui n'a pas été utilisée, mais qui a des prototypes ont existé de torpilles acoustiques. Plein de haut-parleurs différents types de haut-parleurs qui étaient censés être très très résistants parce que naturellement ils étaient employés dans des conditions de combat, dans des conditions aussi de manutention très difficiles, dans des conditions climatiques difficiles. Donc il y avait cet aspect-là juste physique en fait à travailler sur les haut-parleurs. Et de plus en plus aussi, la question, ça a été d'utiliser les haut-parleurs comme outil de leurre. Et donc, il a fallu d'abord avoir des outils de diffusion extrêmement fiables qui permettent de restituer un son d'une manière qui ne soit pas immédiatement décelée par la mauvaise qualité et décelable par la mauvaise qualité. Et du coup, un gros travail a été fait par Bell Labs à l'époque sur le développement de haut-parleurs nouvelle génération, qui sont les haut-parleurs qui ont ensuite, juste à la fin de la guerre, qui ont été massivement utilisés dans les studios. Ils sont ensuite passés dans l'industrie de la musique. Et aujourd'hui, si on a si la hi-fi existe aujourd'hui, c'est grâce à ces efforts-là de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils créaient les haut-parleurs, mais ils travaillaient aussi ce qui allait être diffusé à l'intérieur des haut-parleurs. Et là, c'est un énorme projet qui est absolument méconnu, alors qu'il est, il est gigantesque. Il y a eu des véritables mises en scène théâtrales pendant les deux dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement en France et en Allemagne, vraiment sur la toute fin de la guerre, un petit peu moins en Italie et au Japon, pour faire croire aux Allemands, ou aux Italiens, ou aux Japonais, qu'il y avait des corps d'armée qui étaient positionnés près d'eux, ou tel endroit, ou qui évoluaient de telle ou telle manière, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait 1100 hommes qui ont été recrutés dans des écoles d'art de New York, dans des compagnies de théâtre partout aux États-Unis. Il y avait des comédiens, il y avait des graphistes, il y avait tous les arts qui étaient représentés, et donc des ingénieurs sonores, pour mettre en scène en fait, ce spectacle-là. Et donc, certains étaient chargés de jouer le rôle de vrais colonels, mais qui étaient en réalité à des centaines de kilomètres. D'autres étaient chargés de peindre des décors, mais bien plus réalistes que les toiles grossières qui pouvaient exister à l'époque. Il y avait des faux chars gonflables qui étaient positionnés de manière très stratégique, sur lesquels ils faisaient semblant de faire des opérations de maintenance régulièrement. Puis il ne fallait pas qu'ils soient trop bien... il fallait à la fois les camoufler, parce que sinon c'était un petit peu trop visible comme leur, mais mal les camoufler, donc trouver juste la petite faille qui permettrait de faire croire que ils ont commis juste une erreur de camouflage ici, ils sont vraiment maladroits, ces États-Unis, mais non, en fait, c'était... Voilà. Et donc, au niveau sonore, il y avait trois compagnies sonores qui ont existé. Il n'y en a que deux qui ont été actives sur le front. Une en Italie pendant un mois, en gros, en 1945. Et l'autre, de manière plus prolongée, en France et en Allemagne. Et cette compagnie disposait de véhicules sonores, c'est-à-dire des voitures blindées sur lesquelles il y avait des haut-parleurs. Et elle les positionnait sur des routes, par exemple, pour faire croire à l'évolution d'une colonne de blindés. Et pour aboutir à ça, en fait, il y avait eu des recherches au sein d'une station expérimentale de l'armée qui avait été créée préalablement en 1943. Et c'est des recherches considérables sur la manière dont le son se diffuse dans l'espace. Il y avait une table de diffusion en fonction des conditions météorologiques, en fonction du relief, en fonction de plein de facteurs différents. Est-ce que c'était la nuit ou le jour? À quelle intensité il fallait diffuser pour que ce soit réaliste, clairement audible par l'ennemi, que ça puisse effectivement donner l'impression qu'une colonne de blindés se déplaçait, alors qu'en réalité, il n'y avait que cinq véhicules qui étaient positionnés à quelques centaines de mètres de distance. Et il y a eu une vingtaine d'opérations qui ont été menées par cette unité de l'heure. Elles ont été relativement, minimes. Elles n'ont pas eu d'importance militaire cruciale, mais elles n'ont pas non plus desservi l'armée. Elles n'ont pas desservi les alliés, en tout cas. Elles ont montré leur utilité sur certaines batailles. Par exemple, à un moment donné, il y avait une brèche en fait sur le front. Il y avait des armées qui s'étaient positionnées, mais il y avait une brèche vraiment d'une centaine de kilomètres dans leur ligne, et les Allemands auraient pu très, très facilement les prendre à revers par cette brèche. Et donc, pour faire croire qu'il n'y avait pas de brèche, ils ont mis en place un faux camp, ils ont mis en place des chars et donc des diffusions sonores la nuit, diffusion de blindés, diffusion de ponts en train d'être construits, diffusion d'opérations de maintenance ou de vie militaire sur un camp. Jusqu'en 1945, sur le sol allemand, où il y a eu vraiment une très très grosse opération de l'heure, qui a été victorieuse, mais qui impliquait bien plus que cette unité militaire, qui impliquait vraiment plusieurs corps d'armée, qui a impliqué une coordination au niveau des diffusions radio. C'était des opérations de très grande ampleur.
Et puis ces recherches qui ont été menées à cette époque-là ont été réutilisées après, parce que finalement, au Vietnam, on a utilisé aussi des haut-parleurs en faisant passer...
Oui et non, parce que la station expérimentale de l'armée a été fermée en 1945, purement et simplement. Elle avait accompli son boulot, en fait. Elle a été fermée. Et l'armée, en fait, a semblé se... L'armée et également la marine, parce que la marine disposait aussi de ses propres unités de l'heure, mais qui agissaient à un niveau, on va dire, moins élaboré. L'armée et la marine ont oublié, visiblement, un petit peu ces techniques, où elles les ont considérées comme un petit peu dérisoires. Elles mangeaient pas de pain parce qu'elles étaient très peu coûteuses par rapport aux effets potentiels, c'est-à-dire le fait que 1100 hommes soient capables de représenter une division ou deux divisions de 30 000 hommes. Mais elles n'ont pas, visiblement pas vraiment convaincu l'état-major. Ceci étant, Burris Meyer, par exemple, la fin de sa vie est assez floue en termes d'engagement militaire. Il n'y a pas d'archives disponibles, la CIA ne veut pas déclassifier les documents qu'il concerne. Mais on sait qu'il a été actif pendant la guerre de Corée et pendant la guerre du Vietnam. Et on sait ce qui s'est passé au niveau sonore pendant la guerre de Corée et pendant la guerre du Vietnam. Donc je pense qu'à travers un personnage comme lui, il y a eu une transmission qui s'est faite de techniques de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, les techniques de harcèlement sonore ont été massivement utilisées pendant la guerre du Vietnam, avec la diffusion de mix de musique funéraire, du tigre, du zoo de Bangkok, de la voix d'un enfant qui appelle son papa qui est mort au combat.
En boucle,
qui était diffusée par hélicoptère la nuit au-dessus des camps Viet Cong.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, le son était encore purement un outil et qu'il est devenu arme à partir de la guerre du Vietnam?
C'est sûr qu'il y a un seuil qui est franchi avec la guerre du Vietnam, parce que cette dimension de harcèlement n'était pas présente pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment l'objectif de créer des leurres. Pendant la guerre du Vietnam, la question n'est pas tellement de créer des leurres, même si ça a pu être utilisé. Ça a pu aussi être fait très, très récemment, hein, pendant la dernière guerre d'Irak, au moyen du LRAD, qui est le dernier dispositif disponible, un haut-parleur extrêmement puissant qui a pu diffuser des sons de blindés en train de se déplacer ou de se masser à tel ou tel endroit, alors qu'en réalité, il n'y en avait pas. Donc, ça reste utilisé, mais c'était plus cet aspect-là, effectivement, qui intéressait prioritairement l'armée. C'était l'aspect... c'était devenu... En fait, l'unité qui portait ces pratiques-là, c'était les opérations psychologiques, les psy-ops. Donc, c'était clairement passé du côté propagande, contre-information et harcèlement. Et ensuite, torture aussi, puisque après il y a eu des usages de torture avec du son. Donc, effectivement, il y a un seuil qui est franchi, mais... Voilà. En fait, c'est la période sur laquelle il n'y a pas d'archives du tout disponibles pour l'instant. J'espère que la parution du bouquin fera bouger peut-être quelques petites choses ici ou là. Enfin, bon, s'il n'est pas traduit aux États-Unis, ça ne risque pas de bouger grand-chose. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des archives qui vont sortir pour comprendre comment l'articulation se fait entre les deux, effectivement.
Puisque tu parlais tout à l'heure des armes sonores, Harold Burris Meyer avait essayé de travailler là-dessus. Est-ce qu'on a des armes qui fonctionnent? Parce qu'il avait tenté de créer des armes sonores qui suscitent le trouble de la vision ou avec tonalité aiguë ou des choses qui font que les ennemis ne peuvent pas agir. Mais est-ce que ça marche?
Non, ça marche pas. Et d'ailleurs, le compte-rendu que lui, il en fait, c'est vraiment assez drôle. Parce que paradoxalement, c'est très plaisant de lire les rapports d'Harold Burris Meyer, parce qu'il a beaucoup d'humour dans la manière de raconter les choses. Et donc là, en fait, il met en scène dans son rapport tous les échecs successifs dans les différents chemins. Par exemple, il dit si vous voulez troubler la vue de quelqu'un, ce sera beaucoup plus pratique de salir son pare-brise, parce que c'est beaucoup plus direct, ça coûtera beaucoup moins cher. Si vous voulez créer une fatigue intense chez quelqu'un, on vous conseille plutôt de le faire courir sur un tapis roulant. Si jamais vous voulez susciter une douleur soudaine, mettez une punaise sur sa chaise, parce que le son, ça ne va pas être utile pour ça. Enfin, voilà. En fait, c'est une liste d'échecs que lui narre avec beaucoup d'humour, qui montre en fait l'ampleur des recherches qui ont pu être menées. Mais aujourd'hui même, le seul dispositif attesté qui est utilisé d'un point de vue militaire, c'est le LRAD, donc, qui diffuse une alarme de très haute intensité qui peut assourdir réellement. Il y a eu un procès d'une femme qui a perdu l'audition dans une manifestation à cause de ça aux États-Unis. Elle a quand même reçu $72 000 de dédommagement, ce qui prouve que c'est pas anodin l'effet que peut avoir un dispositif de ce type, mais il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de légendes urbaines, après, des gonnades assourdissantes qui ont plein d'effets, enfin, qui ont aussi des effets cinétiques, c'est-à-dire qui envoient des plots en plus de produire un son assourdissant, mais il n'y a pas tous ces dispositifs qui ont été fantasmés, l'essentiel de la recherche sur les armes acoustiques a échoué. Mais elle a néanmoins permis de faire sortir deux dispositifs qui sont très efficaces dans le maintien de l'ordre ou sur un terrain militaire, que sont le LRAD et les grenades assourdissantes.
Alors, la semaine dernière, on parlait de la torture à Guantanamo. Et à Guantanamo, la musique en tant que telle a été utilisée, le concept de la musique en boucle. Et effectivement, je pense que Britney Spears en boucle peut rendre fou.
Ou n'importe quoi d'autre en boucle, en fait.
Effectivement. Ce soir, on parle de contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore avec Juliette Volclair. Et oui, alors c'était une musique un peu étrange et un peu angoissante qu'on vous passait. C'est tiré de la bande originale du film Irréversible et c'est une création sonore de Thomas Bangalter.
Voilà, puisqu'on termine notre émission avec Juliette Volclair pour son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore ?» Et c'est une coédition, La découverte, la rue musicale, c'est-à-dire en fait la cité de la musique.
Oui, depuis tout à l'heure, on parle de cet inventeur génial qui a créé une partie de la manipulation sonore. Alors là, on l'entend dans ce qui reste finalement des usages de la manipulation sonore avec cette création sur le film Irréversible, parce que c'est un film où il y a une bande originale assez...
Oui, dans la scène inaugurale, en fait, Gaspard Noé a mis une infrabasse de 28 Hz, une infrabasse, c'est-à-dire un son extrêmement grave, pour accentuer en fait le sentiment d'angoisse du public. Et ça, effectivement, c'est assez amusant parce que c'est
amusant, c'est peut-être pas le mot pour ce film. Excusez-moi.
Amusant dans le sens où Boris Meyer, lui, avait fait une expérience vraiment similaire dans les années 30. Il avait utilisé un infrason au moment où il y avait un tambour. Enfin, il y avait un tambour qui arrivait sur scène. Et plusieurs secondes avant, en fait, il avait fait entendre le même battement, mais avec un infrason donc, qui était censé être inaudible, mais qui pouvait être perçu par le corps d'une autre manière. Et donc, pareil, dans un objectif de créer un sentiment de stupeur en fait, chez le public.
Oui, en fait, l'idée, c'était de savoir un peu ce qu'il en reste, ce travail de Boris Meyer aujourd'hui.
Ah bah, il en reste... pour moi, il est présent dans plein de choses. En fait, aujourd'hui, il y a une grosse, grosse émergence du design sonore. Et des identités sonores de marque et les logos sonores sont en pleine il y a beaucoup de créativité autour de ça aujourd'hui et pour moi il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu un siècle de musique d'ambiance auparavant et c'est la continuation en fait par d'autres moyens et ce travail de l'identité sonore reste très très imprégné, quoiqu'il ne se revendique jamais comme ça, de comportementalisme. Et c'est-à-dire exactement cette doctrine qui après a été tenue en mépris en fait pendant un certain nombre d'années, qui a été évincée par d'autres écoles de pensée. Mais en fait, ce comportementalisme continue d'imprégner profondément, je trouve, la pensée du design, enfin en tout cas d'une certaine partie du design sonore. Et la dimension également simplement spectaculaire en fait, et enfin tout le son au cinéma est vraiment imprégné en fait de cette disons que sans les recherches qu'a fait Burris Meyer et qu'ont fait ses collègues à la même époque, le son au cinéma ou le son au théâtre aussi dans une moindre mesure, ou le son tel qu'on le rencontre à la fois dans les magasins ou bien aussi dans la mise en scène dans les mises en scène muséographiques, ne pourrait pas être le même. C'est-à-dire qu'ils ont fourni la base conceptuelle. C'est pas tellement en termes d'efficacité technologique que je trouve qu'ils ont eu une postérité. C'est davantage pour asseoir un certain discours scientifique sur le son et un certain discours sur l'efficacité sociale du son. Parce que tout le discours de Burris Meyer, c'est de dire le son doit être utilisé pour mieux ordonner la société, en gros. Mieux l'ordonner, c'est-à-dire mieux l'ordonner dans un sens capitaliste. Il faut produire mieux, il faut être sage dans la rue, il faut bien se comporter. Et les usages, que ce soit répressifs ou incitatifs du son qu'on voit se développer aujourd'hui, sont vraiment imprégnés de cette idéologie-là.
Alors justement, toi, le son, ça t'intéresse quand même. On t'a reçu plusieurs fois sur ce sujet. Est-ce que tu travailles sur des nouvelles thématiques Tu continues?
Là, je travaille. C'est plus, l'autre gros chantier que j'avais en cours, qui recoupe à une certaine époque en partie les recherches qu'a pu mener Burris Meyer. C'est un travail que je fais pour la revue Saint-Aune, à laquelle je participe activement, et qui un travail sur les faux semblants radiophoniques, c'est-à-dire toutes les pièces, notamment La Guerre des Mondes, qui ont suscité un scandale ou pas, puisque dans les années récentes, il n'est plus question de scandale, ou enfin, quoique, je serais prudente, il y en a quelques-unes quand même, parce que ce sont des pièces de fiction, mais qui sont passées pour le réel. Et donc j'interroge en fait aussi à travers ça l'évolution des formats radiophoniques et l'évolution aussi du rapport entre la radio, le diffuseur, ou les gens qui font les émissions, et le public en fait. Voilà.
Et aujourd'hui, avec tous les podcasts, en fait, il y a plein de créations aussi dans ce domaine-là. C'est assez, assez riche et assez étonnant, en fait.
Mais je pense qu'il y a une... c'est vraiment ce pourquoi on fait la revue Saint-Aune actuellement. C'est parce qu'on pense qu'il est... Et aussi ce pourquoi j'écris ce genre de bouquin, en fait. C'est parce qu'il y a une grosse, grosse activité, en fait, autour de la création sonore ou bien autour des usages commerciaux ou bien répressifs du son en ce moment. Et c'est fondamental, je pense, que simultanément, il y ait une critique indépendante, que ce soit de la création sonore, mais aussi de la critique sociale du son, qui naisse pour accompagner cette émergence-là. Sinon... Voilà.
Eh bien, merci Juliette Volclair de nous avoir rendu visite sur le plateau ce soir. Je rappelle le titre de ton livre, Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore, une coédition La Découverte et la Rue Musicale.
Los pasitos que tú das, los pasitos que tú das, danlos despacito y firme, no te fíes lo mío, que a veces salgo corriendo y mi paso me dolió. Disfruta de todo lo bueno, pa' tres días que vivimos, disfruta de todo lo bueno, excusa tú este consejo, el muerto se va pa' lo otro y el vivo se come el bollo. Lele, 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 lele. Si quieres que yo te quiera, me tienes que conceder
que cuando yo ya te vea, tú me venga aquí. No te tires en vivo, no te tires en vivo, cuando te cruza el río con la línea tú.
Et c'était Radio Tarifa dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et oui, alors c'est la fin de l'émission, on s'approche doucement mais sûrement. Alors on va faire un peu d'agenda militant. Alors Alex, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir ?
Je vous propose ce soir rien. Ce soir, pas, vous pouvez continuer d'écouter Fréquence Paris Pluriel. Je vous propose des petites choses rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Je vous propose déjà d'écouter la radio, par exemple demain matin. D'écouter à nouveau Fréquence Paris Pluriel à partir de 9h30, puisque sera diffusé un reportage sur la manif de Bobigny. Donc demain matin à 9h30, demain c'est jeudi 16 février, voilà, pour écouter sur l'antenne de FPP 106.3 FM, ou bien sur internet, hein, rfpp.net, en streaming. Et puis, moi je voulais en fait vous parler d'une date à mettre déjà dans votre agenda, c'est pas tout de suite, c'est dans grosso modo un mois, un peu plus d'un mois, c'est le 19 mars, avec la marche pour la justice et la dignité. Je pense qu'avec le contexte très actuel là, il est fort important d'être nombreux et nombreuses
de se mobiliser,
effectivement. Donc cette marche, elle se tient maintenant, je crois que c'est la deuxième ou la troisième, ça doit être la deuxième, qui se tient donc en mars, généralement un peu en clôture, enfin un peu en lien avec de la semaine anticoloniale, n'est-ce pas ? Et donc, une marche contre le racisme, les violences policières, la hougara, la chasse aux migrants. Donc rendez-vous.
Il y a du boulot en ce moment.
Effectivement, la liste est longue. Donc rendez-vous dimanche 19 mars à 14h au départ de la place de la Nation pour se diriger à République et finir avec un concert.
Et pour terminer cet agenda ? Non, pas de petite tête supplémentaire.
Pour terminer encore du théâtre avec la compagnie Kaina dont je vous ai parlé déjà, et puisqu'on les a eus aussi dans l'émission en mois de juillet, donc avec la pièce ce soir Rebelle et tais-toi. Et donc, prochain rendez-vous, c'est samedi 25 février à 20h à la Maison pour tous Youri Gagarine, au 6 avenue du 11 novembre 1918, et oui, à Champigny-sur-Marne.
Ça, c'est la classe.
Voilà.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et oui, pour ce soir, les oreilles loin du front, c'est terminé. Alors ce soir, comme contrôleuse des boutons et des pitons, nous avions notre chère Alexandrine.
Et comme contrôleuse de la parole, nous avions Juliette, avec assistée donc de Marion et de Céline, et également la petite Blanc qui a filé.
Et on recevait Juliette Volclair à l'occasion de la sortie de son livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore ?» et c'est publié aux éditions de La Découverte.
Et puis bah nous, on est rediffusés donc le vendredi matin de 8h30 à 10h.
Et on vous laisse tranquillement mais sûrement dans les bras des échos du Capricorne.